Je voudrais, en tant que responsable de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, vous dire quelques mots du travail qui va nous être présenté par Thierry Demey. D'abord, remercier Michel Bargue de nous avoir offert ce beau moment pour clôturer Vidéodance. Et donc, après la projection du film, essayez de vous expliquer un peu le travail que nous allons essayer d'entreprendre, puisqu'en fait, je dis bien, c'est essayer, puisque c'est un début de collaboration avec Thierry Demey sur l'analyse de films de danse. Donc j'espère que ce sera aussi poursuivi sur d'autres films présentés dans les prochaines années, les prochaines éditions de Vidéodance. Je voudrais tout d'abord vous retracer peut-être un peu la genèse de ce projet d'analyse de films, qui en fait est né d'une rencontre avec Roy Amit de MK2 à l'époque, avant qu'il ne prenne ses fonctions à l'INA, et Bernard Stiegler, donc fondateur de l'IRI. Nous avons pu à cette occasion rentrer en contact avec la fondation Forsyth, donc Rebecca Groves, et à la suite d'une rencontre avec William Forsyth, d'essayer de voir quelles seraient les conditions technologiques, les outils qui pourraient l'aider dans le travail qu'il entreprend au niveau de la fondation, de documentation de ses archives, mais aussi de documentation de son travail de danse. Alors c'est un début, puisque ce projet s'inscrit dans un, pour ce qui est de One Flat Think Reproduce, dans un projet beaucoup plus large, qui devait d'ailleurs sortir en même temps que le film, un projet de DVD-ROM interactif, donc avec une possibilité pour l'utilisateur de ce DVD-ROM de se déplacer dans le film, d'en saisir justement les éléments de chorégraphiques, mais aussi les éléments cinématographiques que Thierry va nous présenter un peu avec sa double casquette. Enfin, il a plusieurs casquettes, musicien également, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aborder aussi la partie musicale. Donc cette proposition qui nous avait été donc faite par Bill Forsyth d'essayer de concevoir un outil adapté à ce travail, finalement, nous avons choisi de l'entamer, ce travail, avec Thierry Demey, donc sur son travail de cinéaste, dans le cadre de la production de One Flat Thing. Alors c'est ce projet de DVD-ROM, je ne sais pas s'il verra un jour s'il sera un jour sorti, mais il est en cours avec l'université de l'Ohio aux États-Unis. Donc ce sont des chercheurs, et notamment Scott de la Honta, avec qui nous travaillons étroitement. En leur transmettant les dernières améliorations de l'outil. Et donc, je l'espère, un jour naîtra ce projet. Voilà, alors vous allez voir avec Thierry qu'on aborde, on commence à aborder les questions d'abord de repérage au travers de la vidéo, qui sont des questions, bien sûr, pour nous, d'annotation, c'est-à-dire de commentaires sur un film, mais qui sont aussi, à plus long terme, des questions de la notation de la danse, questions qu'on avait abordées à l'IRCAM, bien entendu, et qui sont au cœur de toutes les collaborations entre musiciens et chorégraphes. Voilà, donc je vais laisser Thierry nous montrer un peu ce début de travail, et qui n'hésite pas à appeler à l'aide s'il y a besoin pour se déplacer dans le logiciel Ligne de Temps, donc qui est le prototype que nous développons actuellement dans le cadre de l'IRI. Voilà, merci.
Merci. Mais comme Michel l'a rappelé, j'ai fait beaucoup de films de danse. Je peux dire que deux des défis les plus challenging, qu'on peut dire, ont été certainement One Flat Thing Reproduced et un autre film d'une autre chorégraphie, c'était Phase de Interesse de Kirsmacher. Et en fait, pour des raisons exactement symétriques, c'est que dans le cas de Phase, ce qui est basé sur les processus de déphasage infinitésimaux de la musique de Steve Reich, mais qui sont reproduits presque à la lettre dans les déphasages des mouvements, voire des jupettes des danseuses, la matière est extrêmement ténue, la matière cinématographique extrêmement ténue, extrêmement simple, si on peut dire. Et évidemment, quand vous voyez la chorégraphie de One Flat Thing Reproduced, et que vous la voyez pour la première fois en version scénique, on est évidemment submergé par ce flot d'informations, par la complexité du travail chorégraphique, de l'écriture, Et je dois dire que quand la première fois que j'ai vu le film, le spectacle live, en me disant je vais devoir filmer ça, j'ai quand même été un petit peu estomaqué. Donc, dans le cas du film de danse, il y a évidemment toujours une échelle qui va de la captation scénique au fait de filmer une chorégraphie qui existe, voire une chorégraphie culte, comme dans le cas de One Flat Thing, et une chorégraphie qui serait faite exclusivement pour la caméra, pour le fait d'être filmée. Donc il y a vraiment toujours un dégradé entre ces différentes options, avec évidemment pour le réalisateur j'appellerais ça un devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'on peut se dire que dans quelques années, sans doute la mémoire de ces chorégraphies passera par le film qui en a été fait. Donc, et le paradoxe, évidemment, c'est que si on filme si on transpose les éléments scéniques de manière, disons, toute crue dans un langage cinématographique, sans doute on va trahir on ne va pas rendre compte de ce qui s'est passé dans cette chorégraphie. Et donc ces opérations de traduction dont on va sans doute un peu, dont je vais vous parler, de transposition d'un élément scénique, puisqu'ici la chorégraphie existe sur scène, en événement cinématographique. Donc, on peut dire que la grande différence entre ces deux temps de l'existence d'une pièce, c'est évidemment le fait que les danseurs sont présents dans un cas et dans l'autre côté qu'on a affaire à une illusion cinématographique. Et qui plus est, on n'a pas l'argument ou on n'a pas la puissance de la narration pour maintenir l'intérêt, pour maintenir ce que les Anglais appellent « suspension of disbelief », c'est-à-dire l'adhésion du spectateur à des images en mouvement sur un écran. Donc, on peut dire que, quelque part, le film de danse, ou les plans, ou les actions, la manière, le langage cinématographique, est vraiment à la pointe, puisque je le compare souvent, ça, comme vouloir écrire un poème plutôt qu'écrire un roman. Et il est évident que le poids d'un mot, d'une phrase dans un poème de 12 vers ne va pas avoir il n'y aura pas le même poids que dans un roman de 2000 pages. Et donc, il y a une volonté de d'employer, ce qui est d'ailleurs très... très stimulant, très exaltant, c'est d'employer le langage cinématographique au plus serré. Puisqu'on n'a pas cette présence des danseurs sur scène qui est communiquée, qui est partagée avec la présence d'un public, mais évidemment, le temps cinématographique devient extrêmement économe, devient extrêmement... une toute autre perception. Ce qui, par exemple, je prends un exemple très clair de Rosas Dance Rosas, et je me souviens, évidemment, on était dans les années 80, 85, 86, à la création, mais les danseuses d'Anne Teresa, quand il y avait quelqu'un qui se levait dans la salle du théâtre de la ville, elles comptaient jusque 100 avant de faire un nouveau mouvement dans le premier mouvement de Rosas Dance Rosas. C'était vraiment une espèce de jeu, comme ça, d'accumuler de la durée, d'accumuler cette présence. Évidemment, dans le deuxième mouvement de Rosas, qui était très percussif, très énergétique, tout cela se résolvait et ce temps accumulé prenait du sens. Mais évidemment, c'est des choses très très difficiles à transférer en cinéma, ou simplement en cinéma dans le meilleur des cas, parce qu'il faut quand même bien se dire que la plupart on a eu la chance de le voir sur un grand écran, mais la plupart des spectateurs vont le voir sur un petit écran, voire à la télévision en faisant la vaisselle. Donc comment maintenir tous ces pôles et en faire quand même ne pas se laisser évidemment écraser par par tous ces défis, c'est le propre vraiment du film de cet exercice particulier qui est de faire des films de danse. Donc One Flat Thing Reproduced, on a dit que c'était j'ai entendu ça, les Foresight Olympics. Je ne sais pas si Prue ici te présente, mais visiblement, c'est quand même un spectacle extrêmement virtuose. C'est une œuvre sur laquelle Foresight a travaillé pendant 8 ans,
Je crois que la création c'était une partie d'un plus large spectacle que Bill avait dédié aux expéditions de Robert Scott à la conquête du pôle sud. Et donc, il me disait, oui, ça a évolué comme couche par couche, comme la neige qui s'accumule petit à petit et qui forme des glaciers. Et je ne sais pas dans quelle mesure la métaphore est objective, mais pour moi, cette table, cet univers hostile, cet univers blanc hostile, est sans doute des réminiscences de ce travail sur la conquête du pôle sud. Et Prue pourra peut-être nous expliquer les rapports, comment les mouvements sont nés, etc. Donc, c'est un modèle, c'est une pièce certainement majeure dans le travail de Bill Forsyth. Ce qui m'a vraiment très fort, intéressé dès le départ, c'est que c'est un modèle tout à fait original d'auto-organisation. Je ne connais pas d'autres modèles, peut-être, oui, en free jazz, mais la pièce agit, donc chaque danseur a une centaine, 100, 120, 150, ce qu'ils appellent des cues ou des triggers, c'est-à-dire des signaux. Et donc, imaginez un orchestre, il n'y a pas de chef d'orchestre, mais pour que le violon puisse faire son trait, il doit attendre que la clarinette ait fait talop, et alors il peut faire son trait. Et puis quand le violon a fait ça, les cuivres peuvent répondre. Donc c'est toute une organisation interne avec tous des regards croisés comme ça. C'est vraiment un organisme. Il y a très peu d'impro, je crois, donc pratiquement pas d'improvisation. Mais il y a toutes ces relations croisées maintiennent un état constant, un état d'alerte de la part des danseurs et des interprètes. De conséquence de cet état de fait, il n'y a à proprement dit pas de ligne de temps de référence. Il n'y a pas une musique, par exemple, sur laquelle on pourrait se baser pour établir un découpage temporel. La pièce, j'ai vu quand même plusieurs versions enregistrées en vidéo, varie dans le temps à peu près 20%, ce qui est énorme en fait pour une œuvre scénique qui a été jouée si souvent. Et donc il faut savoir que le musicien Tom Williams est aux manettes, il joue, il mélange les boucles, il remixe sa musique chaque fois en fonction des représentations. Donc, par exemple, une des envies de Bill Forsyth, c'était au départ de tourner ce film avec une motion control. Motion control, c'est une caméra qui est tout à fait animée par une dolly animée d'un bras articulé et dont vous mettez tous les mouvements en mémoire dans l'ordinateur, ce qui permet évidemment de faire des mouvements extrêmement virtuoses et de se déplacer en continu à travers la chorégraphie. Mais évidemment, c'était impossible de faire un système de motion control sur un temps qui est élastique. Puisque Marthe, elle peut choisir de faire ça, ou elle peut le faire comme ça, et on comprime le temps. Évidemment, si le temps est bloqué, le paramètre de temps est bloqué dans une machine, ce paramètre-là n'existe plus, n'est plus captable. Donc, on s'est tout de suite orienté vers un tournage, disons, plus classique. C'est un tournage qui, comme je fonctionne assez souvent de cette manière, qui implique deux caméras. Deux caméras, principalement, une de mes stratégies pour filmer la danse, c'est que la danse, c'est non seulement une écriture, c'est une écriture fugace qui disparaît au fur et à mesure qu'elle s'écrit, mais c'est aussi évidemment des gens qui portent cette écriture. Il y a le fameux code de Keats, « How to know the dancer from the dance », comment distinguer le danseur ou la danseuse de la danse. Eh bien, c'est vraiment à la lettre ça. C'est-à-dire, est-ce que je filme une écriture, quelque chose qui se développe dans le temps, avec sa rigueur, avec ses exigences, ou est-ce que je filme les gens qui portent cette écriture. Et dans le cas de la danse, évidemment, la liaison se fait extrêmement forte puisqu'elle s'opère dans les mouvements du corps des interprètes. Donc, j'adopte un petit peu cette espèce de vision stéréoscopique, si on peut dire, avec une caméra qui est tout à fait, on va le voir avec l'aide du programme Ligne de Temps, qui est tout à fait découpée, storyboardée, repérée avec des angulations. Et au contraire, une caméra beaucoup plus libre qui est chargé justement d'essayer de capturer tous ces éléments, on va dire, plus humains, plus les regards, les hésitations, les respirations, et donc qui va se faufiler, qui même dans les répétitions parfois va voler des plans. Et plus tard, au montage, je vais me retrouver avec ces deux options. Et donc, chaque séquence va être filmée, va être montée d'abord dans une option tout à fait telle que je l'avais imaginée avant le tournage. Donc vraiment, on va réaliser la partition au montage. Et puis, petit à petit, on va faire craquer cette structure en injectant des plans de l'autre caméra. Donc ça, c'est une stratégie que j'emploie très souvent pour faire des films de danse, et ici je l'ai évidemment aussi décliné. J'ai aussi tout de suite demandé à Bill Forsythe, qui m'a accueilli vraiment en applaudissant des deux mains, je lui ai dit, bon, cette chorégraphie qu'on la voit sur scène, c'est une courbe, c'est-à-dire c'est vraiment une montée d'énergie, c'est un phénomène d'accroissement, aussi bien en danseur que d'énergie, de complexité, c'est vraiment un truc qui part, et ça n'arrête pas, ça monte, la musique, vraiment... Et donc, je crois qu'il y a un moment où le spectateur renonce, peut-être, on va de micro-éblouissement en fascination pour la virtuosité des danseurs, les fascinations locales, mais à un certain moment, il y a une espèce, je dirais, une émergence d'un autre phénomène qui se produit, c'est une espèce de vibration énergétique. Bon, là, je m'aventure un peu sur un terrain, on va dire, grosso modo, il y a une espèce de poétique qui se dégage au-delà de cette virtuosité et de cette maîtrise de ce que les danseurs ont acquis à manipuler, à se glisser, à se faufiler, à adopter à leur corps, leur mouvement, à l'univers extrêmement anguleux de cette table et ce paysage urbain qui est reconstitué. Donc, cette poétique, cette vibration, je voulais évidemment essayer de l'attraper, essayer d'en rendre compte aussi. Mais je suis conscient que le temps cinématographique que maintenir sur 26 minutes, ça c'est un peu le format obligatoire d'Arte, mais enfin, ici, dans ce cas-ci, ça se prêtait vraiment très très bien, que maintenir une tension croissante pendant 26 minutes sans la présence physique des danseurs, c'est aussi un challenge à peu près impossible à tenir. Donc j'ai proposé à Bill de ménager dans la chorégraphie des zones qui ne sont pas dans la chorégraphie originale, et où on réduirait le taux de complexité pour éviter que simplement le spectateur de film ou de télévision simplement ne renonce pas à essayer de voir, de comprendre, de saisir, enfin qu'il ne dit pas qu'est-ce que c'est que cette agitation inutile d'une certaine manière. Donc j'ai proposé plusieurs stratégies, c'est un mot qui va revenir souvent, plusieurs stratégies formelles qui vont dans ce sens. Et par exemple, l'idée, c'était de présenter la danse dans une scénographie un peu différente du set où il y a les tables disposées en rectangle de 5 tables sur 4. Mais donc, cette façon de présenter une seule table ou cette rangée en clavier, comme ça je le vois vraiment comme un clavier, de tables, c'est des choses originales qui ont été faites uniquement pour le film, et puis un peu plus en deuxième temps pour une installation que j'ai réalisée avec ces images. Mais disons qu'elles ne sont pas dans la chorégraphie originale. Alors, on va piocher dans le beau logiciel Ligne de Temps, et ces variations thématiques, vous voyez là, variation thématique, voilà par exemple une variation thématique, c'est l'ouverture. Hein, donc, ça n'appartient pas à la chorégraphie originale. Voilà. Une autre variation thématique, cette fois-ci à une seule table. Et je crois que détaché du contexte global, Bill n'aime pas le mot d'improvisation, même si les danseurs sont extrêmement libres dans ces variations thématiques, mais il faut savoir que toute la chorégraphie est basée sur un certain nombre de thèmes et de contre-thèmes qui sont exposés et qui subissent toutes sortes de variations, et donc ils sont tout à fait habilités à lire et à se répondre avec tous ces jeux développés dans les technologies du mouvement propre au langage de Bill Forsythe. avec des jeux d'alignement, des jeux de réponse. Prou pourra peut-être nous expliquer quelques exemples de tout ça. Donc, une autre variation, là, c'est vraiment un solo. Georg. Reprend des éléments, des thèmes qui ont été énoncés, mais ne les. Mais évidemment, ces parties-là ne sont pas dans la chorégraphie originale. Ça aussi, c'est un autre exemple. Et enfin, le dernier plan qui clôture le film est un exemple de ces pièces rajoutées, on va dire. Ce qui, pour moi, me permet de faire évidemment un mouvement de recul dans le degré de complexité et aussi de me redonner des occasions de redémarrage. Pour gérer l'énergie ou les dépenses d'énergie de ce que les gens perçoivent. Ça, j'ai découvert évidemment avec ces fameuses lignes de temps, c'est que les pièces, les variations thématiques, en haut, donc vous avez tous les plans, hein, ceci c'est la ligne du film avec tous les plans. Donc si je vois bien, il y a 195 plans, et donc tous les plans là au-dessus, et donc les plans, les variations thématiques, on peut même voir quel pourcentage elles occupent, on va s'amuser. C'est-à-dire, information ? Mais voilà, il y a quand même 22% de matériel qui n'était pas dans la chorégraphie originale. Alors, la ligne de temps nous permet aussi de voir, quel serait, donc quand on filme ce genre de choses, la première chose que j'ai demandé aux danseurs, c'était de faire de filmer leur chorégraphie du début à la fin, sans interruption. Donc ce qu'on appelle en jargon des master shots. Et il y a deux master shots principaux. Un qu'on pourrait dire la vue scénique, c'est à peu près comme la vue en légère plongée. C'est la vue qu'occuperait un spectateur situé à la meilleure place du théâtre. Et donc, j'ai filmé l'ensemble de la pièce sous cet angle. Donc, c'est la ligne scène que vous voyez ici. Et en fait, je remarque que c'est toujours très, très rassurant pour un réalisateur d'avoir ce plan dans la boîte, parce que donc c'est des plans de ce genre-là. Où est-ce qu'ils sont ? Par exemple, celui-ci, mais non, pas celui-là, justement. Il prend toujours. Voilà, ça c'est typiquement un plan master shot scénique, donc on voit l'ensemble de l'action. Et mais là, je remarque que dans le montage final, alors que j'ai filmé en continuité ce plan, qu'il ne reste plus qu'en durée que 6% de ce genre de plan. Ce serait le plan mémoire idéal. D'ailleurs, c'est ce que dans la demande de Bill de faire le DVD ROM, il y avait cette exigence d'avoir ce plan-là en continuité, parce qu'évidemment, pour éventuellement remonter le spectacle, c'est sans doute le document le plus utile. Il faut dire que dans cette envie de Forsythe, qui était extrêmement forte de voir l'existence de ce DVD, d'ailleurs il m'a dit plusieurs fois au début que le film était un prétexte pour faire le DVD, il y a chez lui l'envie de trouver de trouver une manière d'écrire la danse. Visiblement, écrire la danse est un défi très... On n'a pas encore trouvé de solution idéale. Je n'ai pas encore vu de danseur prendre... Oui, bien sûr qu'il y a des techniques d'écriture, laban, etc., mais je n'ai pas encore vu de danseur prendre une partition laban et commencer à faire ses mouvements. Et donc, Bill espère très fort qu'un DVD interactif pourrait jouer ce rôle-là pour ses chorégraphies, donc pourrait vraiment assurer la mémoire de son travail. Alors, est-ce que, si je fais bout à bout... On peut voir une chose que j'ai demandé aussi à un danseur, à Christopher, c'est de me noter tous les mouvements des danseurs, comme ça, pour essayer de trouver mon chemin dans ce nœud de spaghettis, si on peut dire. Donc je vous donne des exemples. Et évidemment, ce qui me permet, dans un premier temps, voilà, ça c'est les costumes. Donc, ça permet de vous y retrouver. Les costumes ont été choisis aussi, évidemment, pour leur fonction de faciliter la lecture des lignes chorégraphiques. Donc, ça m'a aidé, évidemment, très fort pour faire le plan d'angulation. Vous voyez là, donc, on peut voir un plan d'angulation. C'est comme une partition, hein, donc le plan, la séquence zéro, la caméra qui descend en avance, qui s'avance là. Il y a un insert sur Yanis, les garçons en jaune. Et bien, on va suivre le trajet thème contre thème de Yanis avec un travelling latéral qui soit va s'effectuer là, soit en fait on l'a tourné de là. Et puis il va y avoir un insert sur le kick. Le kick, c'est le mouvement qu'ils font avec le pied, comme ça, tac, tac. Un double insert, en fait, puisqu'il est pris en avant, en champ contre champ, et ce qui va nous permettre de bondir dans le plafond, dans le plan top shot. Donc voilà comment on lit. Donc j'ai mis comme ça, je ne vais pas tous vous les montrer, mais ça c'est un mouvement de grue qui descend en spirale autour d'un danseur, je vais pouvoir vous montrer après. Ça c'est par exemple l'idée du travelling circulaire intégral, donc on part justement sur proue et on entoure complètement la danse par un mouvement, un travelling circulaire. Comment je quitte le bout à bout ? Là ? Ah, voilà, merci. Donc une des manières pour, disons, refroidir la réaction, enfin, et donc simplifier, donner une chance de donner une lecture, disons, plus approfondie, plus en profondeur du travail de lecture, décodage, thème contre thème, etc., que font les danseurs, c'était ces variations thématiques où on réduit le nombre de tables et où on réduit le nombre de danseurs. Une autre manière de donner un aperçu, disons, un aperçu géographique et graphique, et évidemment très pratique pour savoir qui est où, c'est top shot, donc les plans qui sont pris en plongée totale avec une caméra dans les cintres. Donc je les ai répertoriés dans cette... Enfin, c'est Cora qui répertorie les plans de... Donc voilà, par exemple, ces plans caméra qui est placé dans les cintres. C'est aussi un plan master qui a été tourné en même temps que le plan master de face que je vous ai montré. Donc on pourrait tout à fait imaginer une vision orthogonale parfaite du film en deux dimensions, si vous voulez. On a même aussi les latéraux. Donc on pourrait imaginer une boîte noire tout à fait où le film serait vu sur tous les angles. Donc, on voit que les top shots, je m'en suis servi un petit peu plus. Mais c'est comique parce que je découvre ça, évidemment, à posteriori. C'était pas conscient au moment où je faisais le montage des proportions de top shots que j'allais employer. Mais c'est comique. Donc, de voir qu'il y a quand même, il y en a quand même 11% de plans en top shot, c'est ça ? Plongée totale. Oui, c'est ça. Donc il y a 11% de plans qui sont évidemment tout à fait improbables dans une situation, scénique et théâtrale. Ce qui est important, bon, un programme comme Ligne de Temps peut évidemment détecter assez facilement ce genre de enfin, on peut détecter assez facilement ce genre de paramètres objectifs, disons. Ce qui paraît peut-être. Ah. Comment je peux aller enlever là ? Bien, mais, ah, si je remonte là.
Ouais.
Non.
À côté.
Merci. Donc là, en fait, on voit le master shot frontal dans son entièreté. On peut un peu voyager dedans. Et on peut le mettre en face du film. Comme vous voyez, il est plus court, puisque la représentation est plus courte. Elle fait 16 minutes 14 secondes, alors que le film fait 26 minutes. Donc voilà, ça c'est le master shot. En dessous, il y a le plan top shot qui est pris en continuité. Il n'est pas plus court, c'est un petit bout qui manque. Ça c'est une astuce de disque dur. Mais... Donc à tout bout de champ, je peux donner cette vue graphique, disons, et topologique de l'évolution de la chorégraphie, ce qui me permet aussi de ne pas perdre le spectateur, parce qu'évidemment, dans une chorégraphie, le fait que la fille en rouge est sur la table devant et que le garçon en vert est derrière peut revêtir une importance capitale. Or, l'espace cinématographique ne rend pas nécessairement compte de ces éléments. Alors, ce que j'ai isolé, c'est que c'est des plans d'articulation. C'est-à-dire, pour éviter ce choc, puisqu'il y a cette tension entre un élément qui est pris d'en haut, très graphique, et des éléments qui plongent dans le feu de l'action, eh bien, il y a toujours, en tout cas très souvent, des plans d'articulation qui, eux, sont peut-être plus... Donc, tous les plans qui vont envoyer en haut sont généralement amenés par un plan de ce genre. Tac, et voilà, on est passé en haut. Et on peut aller voir d'autres exemples. Donc, c'est des plans c'est une stratégie en... Même chose... mouvement qui a précédé, etc. Je ne sais pas si je rentre dans trop de détails de montage, vous me dites. Alors, un autre type d'articulation, c'était pour passer à ces séquences où il n'y a plus qu'une table. Donc, évidemment, ça aurait pu être très choquant. Donc, j'ai chaque fois efforcé de prévoir, par exemple, un plan de ce genre qui vraiment qui joue la charnière entre les deux univers. C'est un peu comme si le grand plan induisait un univers plus intérieur. Pour passer dans cet univers de personnel. Alors, il y a... Bon, je me suis efforcé de mettre... Ça, je me suis rendu compte au fil des années, en faisant des films de danse, que si on s'attache trop au langage, si on s'attache trop à la chorégraphie, trop à ce qui se passe, et qu'on oublie, disons, l'aspect purement cinématographique, ou que l'aspect cinématographique derrière n'a pas une rigueur, une existence propre, mais on perd le fil. Et de l'autre côté, si on ne fait qu'un processus cinématographique qui existe en tant que tel, et on oublie ce qui se passe sur la scène, ben on rate aussi le coche. Donc, j'essaie toujours de mettre en face des espèces de processus, de stratégies qui permettent de rendre compte d'un événement sur une distance plus longue que simplement d'aller de plan à plan ou de mouvement en mouvement. Donc, par exemple, si je peux montrer, c'est quoi, c'est les... Ben oui, donc, il y a évidemment, puisqu'il y a cette dynamique des plans en plongée totale et des plans qui sont parfois pris en dessous des tables, eh bien, tout l'enjeu va être de passer de l'un à l'autre. Un des systèmes, c'est ces mouvements, ou un gros plan avec un mouvement qui va vers le haut, projette la caméra dans le plafond. Et puis voilà le mouvement inverse. Donc on a beaucoup cherché pour trouver un mot qui correspondait à cette rhétorique, à cette stratégie. On s'est arrêté sur... c'est des suites de jump cut, donc des sauts dans l'axe. Et on peut appeler ça des stratégies en escalier. Et voilà le plan d'arrivée, le gros plan. Donc on part du plafond et on découpe comme ça. Un couple avec lequel je travaille souvent, c'est d'opposer évidemment des mouvements qui fonctionnent de manière continue sur des mouvements qui fonctionnent sur la même rhétorique spatiale, disons, qui opère de manière continue. Mais par exemple, des plans... petit problème d'effilement de l'image, ouais. Des plans d'atterrissage. Il y a un moment où j'enchaîne une série de plans d'atterrissage où la caméra effectue comme des mouvements de glissement en plongée. Est-ce que c'est ça ? Oui. Qui occupe la place à peu près, qui occupe une place privilégiée dans la construction du film, puisque c'est un des points culminants, c'est un travelling circulaire où on va faire le tour de la chorégraphie, puisque évidemment c'est aussi une perspective, une chance qu'offre le film de danse, c'est d'aller voir ce qui se passe derrière et qu'est-ce qui se passerait si on voyait la chorégraphie dans l'autre sens. Ben voilà. Donc c'est un travelling. Je vais commenter en cours de route. On a tourné dans un entrepôt, le Bockenheimer Dépôt à Francfort, qui est un lieu, qui est un ancien dépôt de train, qui était transformé en espace de représentation. Et il a cette particularité d'avoir la possibilité d'ouvrir ou de fermer les fenêtres et de même les lucarnes dans le plafond en temps réel et en silence. Donc, je ne me suis pas privé de jouer avec la lumière du jour. Et donc, il y a un axe dans le film qui est très peu utilisé, c'est celui-ci, celui qu'on est en train de voir. Je crois que c'est à peu près le seul moment où je vais avec la caméra de ce côté-là. Parce que, donc c'est un peu comme avec un flash, l'axe où vous êtes dans la direction de la lumière dominante, vous écrasez l'action. Vous voyez que les actions dans le fond, c'est peu lisible et c'est très aplati. Il faut dire aussi qu'ici, les danseurs renoncent un peu à leur jeu de cue qui se donne entre eux, puisque la contrainte cinématographique est très importante. Et donc, c'est Bill Forsyth qui est derrière la caméra, qui suit l'évolution du travelling et qui leur donne les cues. Et donc le travelling va dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour évidemment terminer ou avoir cette lumière-ci, qui est beaucoup plus rythmée, disons, et beaucoup plus intense dramatiquement, puisqu'elle est en opposition avec la lumière principale. Donc là, je dois dire que Bill a tout à fait joué le jeu, parce que je lui avais dit ça, c'est un plan, on le prend, you take it or you leave it, mais on ne coupe pas dedans, puisque le défi, c'est d'arriver à ça, évidemment. Donc, voilà. Et alors, la transposition en... Est-ce que je suis à la fin, là ? Oui, c'est ça. La transposition, vous mettez... Donc le cercle qui fait comme ça, ben j'ai gardé pour la fin du film le fait de faire un mouvement, on va appeler un espèce de looping au-dessus de la danse. Et voilà. Oui.
Sur ce poste, c'est les acteurs qui font la fin tournée.
Oui. Donc évidemment, avec cette possibilité, on le voit d'ailleurs, la fenêtre du fond qui se ferme. Donc tout ça, c'est pour arriver à maîtriser cette lumière du jour, ça demande un plan de travail très très précis. Donc repérer les heures, on a repéré exactement l'heure où la rangée, la lumière qui tombe des lucarnes tombe pile poil dans le couloir où les... par lequel les danseurs rentrent dans le set des tables. Et on s'est arrangé pour que ces plans de fin de film, qui sont en contre-jour sur la lumière dorée de fond, soient tournés en fin de journée, ce qui parfois n'est difficile de combiner des contraintes physiques sur la fatigue des danseurs et les horaires en fonction de la lumière. Une autre chose très importante, on a jusqu'à quelle heure en fait ? On a jusque ? Alors, vite fait, une autre chose très importante dans. Et aussi, c'est une discussion que j'ai eue avec Bill, puisque son œuvre extrêmement frontale, polyphonique, complexe. Je lui ai tout de suite dit. Pour arriver à... Il faut donner des points d'entrée sur les personnages, sur les danseurs. Et donc, on a choisi les costumes, les couleurs de costumes. On a voulu que les costumes soient extrêmement différenciés, mais aussi qu'il y ait des zones où on puisse s'attacher à un danseur de manière plus personnalisée que dans la chorégraphie qui est perçue de manière tout à fait... Donc, ce qu'on... Oui, je sentais parfois une réticence de la part de Bill. Il me disait, oui, mais tu es en train de mettre... c'est une symphonie, tu mets le micro à côté de la flûte et ça devient un concerto pour flûte. Et puis, je crois que... Mais il était bien évidemment d'accord que pour voir certaines actions, parce que notre œil, comme spectateur de théâtre, il manipule ça avec énormément de savoir-faire et de talent, de faire venir quelqu'un qui après va être la personne qui le fait, il redisparaît, puis il revient comme par hasard à l'avant-scène, puis tout à coup c'est la personne qui déclenche l'étape suivante. Il a géré ça de manière scénique, mais de même il faut le traduire ça cinématographiquement. Donc c'est ce que j'appelle des relations personnalisées. Par exemple, ici, ce solo sur Marthe. Dans le spectacle, il existe, mais il est tout à fait, disons, recouvert par toutes sortes de, d'autres couches. Et donc là, il m'a paru important d'avoir ce temps de respiration où on peut... une autre relation personnalisée, en fait, c'est la présence de cinq. Qui, finalement, dont la tête va après ça nous servir de pivot pour... Toute l'action est gelée jusqu'à ce cue qu'elle donne. Mais est-ce que tu veux peut-être venir nous rejoindre pour parler de...
Je vais juste très vite expliquer le processus. Depuis le début, on a commencé il y a 6 ans. Donc au début, Bill, cette pièce était une partie dans une plus grande pièce qui était le Robert Scott, donc c'est ce que Thierry a parlé. Et en fait, il était préoccupé avec ce voyage qui était une espèce d'échec, beaucoup d'images dans les glaces, les froides, des choses comme ça. Donc, petit à petit, on a construit le petit trio, on a chorégraphé le duo, les solos sur les tables, comme c'était un environnement glacial. Et il avait une idée au début de filmer dessus la table et de projeter ça en même temps, qui en fait on n'a jamais fait à la fin, mais c'est à cause de ça qu'il y a cet mouvement qui se passe sur la table qu'on ne voit pas très bien toujours et qui petit à petit prend moins d'importance. Donc, je crois qu'il y a 6 ans, la première version de ça, c'était très très long et il avait le moment très... très improvisé dedans aussi. Et petit à petit, pendant qu'on a rejoué ce spectacle, on a ajouté des choses, on a complexifié et surtout on a coupé de plus en plus de parties d'improvisation pour justement être plus précis et avoir plus de possibilités de ce que Thierry il appelle cues, que nous on appelle hookups, qui est une espèce de... Par exemple, si je fais un geste comme ça, il y a quelqu'un dans une table derrière moi qui, à ce moment-là, prend cette deuxième partie de ce geste et après continue avec la même chose. Et c'est juste une espèce de visualiser, visuellement, avoir une synchronisation. Donc, Bill, il a ajouté ça le plus en plus. Donc, le processus pour nous, c'était très stop-go. Dès qu'il a vu un moment... potentiellement où quelqu'un peut faire un hook-up avec quelqu'un d'autre, il a identifié la personne et ajouté. Donc petit à petit, ces moments étaient plus en plus fixés et la pièce était plus en plus complexifiée dans le temps. Et aussi, par le fait qu'on a joué ce spectacle beaucoup de fois et... Comme Thierry a expliqué, c'était vraiment par rapport aux autres. Chaque cue s'était donné internellement, donc on était très
à l'écoute
de l'autre. Et le fait qu'on ait joué beaucoup ce spectacle, c'était de plus en plus vite, de plus en plus efficace. Donc le résultat, 5 ans après, c'était le spectacle était fini à 16 minutes, ou à le début, c'était 30 minutes. Donc ça, c'était assez typique aussi de le spectacle de Bill. Donc voilà, ça c'est pour nous un peu comment le processus a évolué chorégraphiquement.
Ce qu'on peut dire, c'est que Bill aime bien rajouter comme ça dès qu'il sent qu'un processus est trop bien huilé, tout à coup il remet une couche pour recréer cette espèce de tension.
Ouais.
Et donc par exemple, il y a des parties, on va pas les voir, mais où un trio qu'il estimait trop, ils l'ont déjà trop fait, ils connaissent ça trop bien, tout à coup il prend quelqu'un d'autre et dit tiens. et il jette une quatrième personne. Toi, tu vas lire les mouvements de nanana, et ça recrée évidemment un espèce d'électrochoc. D'ailleurs, une des discussions qu'on a eues après le tournage, c'est que j'ai eu le malheur de lui montrer les images de mon installation. Donc, parce que, en fait, les images qu'on a tournées spécialement pour le film servent pour une installation interactive. Et je lui ai montré les images de l'installation. Et il aimait plus les images qu'on avait tournées spécialement pour l'installation. Enfin, il aimait plus, il avait une sympathie, puisque c'était ce qu'on avait créé au moment même. Donc, il voulait absolument en mettre beaucoup plus dans le film. Puis je disais, mais Bill, oui, mais il y a ta chorégraphie, on ne va plus rien comprendre si je ne mets que des histoires avec une table et trois personnes. Puis je dis, oui, mais nous avons été créatifs, on doit montrer notre créativité. Je dis, oui, bien sûr, mais on va les montrer ailleurs. Et donc, c'est pour ça que sur le DVD, il y a ces images-là. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui aime se frotter à ce qui se passe là. Ouais. Quelque chose qui est trop fixé.
Oui, à la fin, c'était très fixé, mais en même temps, il avait toujours le temps pour prendre des risques, même si c'était un temps très court. Par exemple, si je voulais pousser un peu, je savais que à le moment où j'avais fait un certain mouvement, que ça déclenche certains autres gens. Si je voulais pousser le spectacle pour aller plus vite, je pouvais toujours aller plus vite là où prendre un risque avec le temps ou avec les choses. Ou au contraire, ça c'était intéressant aussi. C'est dans un moment, on avait une partie très lente qui était bien sûr coupée. Mais pendant cette partie sous scène, tu peux vraiment aller le plus en plus lente. Mais les autres danseurs, ils avaient à peu près l'idée, la duration. Ils étaient tellement à l'écoute qu'ils ont, dès qu'ils ont entendu un bruit comme ça, même si c'est pas le mouvement, ils déclenchent. Donc on avait plusieurs espèces de jeux dans le spectacle avec ça pendant beaucoup de répétitions, beaucoup de spectacles. Non.
C'est pas moi qui ai coupé la partie lente.
Non.
Oui.
Ah oui, d'accord. Alors non, la question c'était, je me posais la question par rapport à un tournage de film. Normalement, le cinéma est organisé par un storyboard, des plans qu'on filme précisément à un moment donné. Est-ce que vous avez fait ça aussi pour ce travail?
Voilà.
Parce que quand vous parlez du master shot, vous avez fait aussi la captation totale de la pièce. Et après, est-ce que vous avez organisé le travail des danseurs? Parce que ça, je trouve très difficile de dire, vous allez danser de tel mouvement à tel mouvement, on va donc le filmer. Après, on fait une pause et on reprend dans 10 minutes, vous faites de tel mouvement à tel mouvement.
Exactement. Comment
on
fait dans les... Donc, ça, il faut savoir qu'on a 5 jours pour faire ça, ce qui est vraiment très très peu, et qu'on doit compter sur l'énergie des danseurs. Il est évident que cette chorégraphie, on ne demande pas de faire la chorégraphie de A à Z 10 fois sur la journée, sinon à la fin, tout le monde est mort, il y a des accidents, etc. Et le résultat n'est pas intéressant. Donc, il faut être très économe. Donc voilà, vous parlez d'un storyboard, je ne sais pas si ça c'est le storyboard qui défile là. Évidemment, filmer en vidéo la représentation scénique, et puis la description de tous les mouvements, de tous les plans, etc.
Mais nous, comme on voit comme un flot de mouvements continu,
oui.
On se demande à quel moment vous avez pu couper et dire on va prendre de là à là.
C'était ça le défi, évidemment, c'était de comprendre toutes ces sections chorégraphiques, parce qu'en fait, il y a des sections. Hein, très très articulé.
Très précis.
C'est très très précis, très articulé. Chaque type de...
Chaque partie a un nom pour nous.
Oui, un nom très précis. Et si on dit on prend à Ocean, ils savent tous où c'est Ocean. Et si on prend. Et puis là où j'avais pas de nom, j'inventais des noms qui finalement restaient Frankenstein. J'avais des gens qui marchaient un peu comme Frankenstein. Donc j'ai vu avec Frankenstein Walk. Et puis après, ils savaient ce que c'était, où on reprend un Frankenstein Walk, etc. Donc effectivement, ça a été une grande partie du travail. Et je l'ai pu le faire grâce aux vidéos du spectacle. Et grâce au décodage qu'on avait fait le danseur, donc ce que je vous ai montré avec tous les nœuds des trajectoires. Ce qui serait d'ailleurs passionnant à mettre dans un programme de ce genre. Là, je suis sûr que Bill vous une admiration éternelle à Iri, si vous parvenez à lui mettre ces trajets de danseurs qui défileraient comme des tresses, évidemment. Hein. Donc ça, c'est un rêve. Puisque, en fait, son rêve serait, pour tester l'efficacité de son écriture, ce serait d'envoyer ce DVD-ROM au Tokyo Ballet ou au Netherlands ou au Dieu sait où, de ne surtout pas envoyer de danseurs, surtout pas y aller, et puis de s'asseoir et de voir sa pièce exécutée. Donc c'est un peu un rêve, sans doute impossible, c'est une utopie, parce que je veux dire, 150 cues sur la vidéo, je ne sais pas, où chaque danseur... Enfin, on a commencé à faire, d'ailleurs, au début, j'avais aussi essayé de faire ça pour essayer de m'y retrouver, de demander à chaque danseur de faire quelque chose. Ah oui, là, je fais cue, et puis donc je regarde truc, et puis je fais dunky, et mais je suis vite par machin, et puis je mets ma jambe comme ça. Et donc, il raconte à la caméra, chaque danseur raconte à la caméra tous ces liens croisés qui constituent ce tissu de relations. Mais c'est évidemment, c'est la mémoire de l'œuvre est dans les interprètes. Je crois que Bill connaît un certain nombre de ses repères, mais c'est absolument inhumain de pouvoir prétendre et connaître tous.
Oui, d'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on travaille avec les danseurs de Bill Forsyth actuellement. Ils documentent leur mouvement soliste, notamment pour les étudiants qui viennent en stage, mm-hmm. donc à l'aide du logiciel.
Oui, bonsoir. Il y a d'abord une première chose que j'ai remarquée dans le film, c'est que je n'avais pas vu quand je l'avais vu sur Arte, c'était la très grande interaction entre les mouvements et le son, qui n'est pas... Et puis justement, je reprenais un peu ce que disait monsieur, est-ce que vous avez dû, comme souvent en cinéma, refaire plusieurs fois la même prise, est-ce que... etc.
Quoi. Oui, donc il y a... Effectivement, hein, on a refait souvent la même prise. Mais enfin bon... Comme c'est un langage extrêmement physique, on ne peut pas faire indéfiniment la même prise. Et puis évidemment, il y a 5 jours de tournage. Mais grosso modo, il y a une moyenne. Je compte toujours dans les... Non, c'est utile pour les budgets. Entre 5-6 fois les prises. Et il y a certaines prises qui ont été... Par exemple, le travelling circulaire, on l'a fait 8 fois. Pour avoir une chance de l'avoir vraiment bien du début à la fin. Oui, il y a plusieurs prises. Ah oui, aussi pour le son, il faut savoir quelle musique existante, donc qui est la musique de Tom Williams, et que Tom remixe cette musique à chaque représentation. Donc c'était, on lui a demandé de faire la même chose une fois que le montage était fait, et il m'a envoyé il est venu au studio son. Alors si on parvient à mettre la forme d'onde, c'est assez intéressant à voir, parce que aussi dans la musique de Tom Williams, si vous avez une représentation de Forsyth, vous vous rendrez compte que le niveau sonore est vraiment nettement plus élevé à ce que vous avez reçu ici. C'est une musique très forte qui donne par cet aspect de déchirement, de granulation, fait monter aussi en puissance cette dépense d'énergie de la danse. J'ai tenu à ce qu'il y ait, et ça j'y tiens de manière vraiment très 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 radicale, à ce qu'il y ait tous les bruits de la danse, les souffles même si parfois c'était réaliste d'entendre les souffles. Mais pour moi, c'est extrêmement important que le son véhicule énormément de justement cette présence. Hein. Donc le regard est on a une intelligence qui décode, qui analyse. Par contre, le son, c'est quelque chose de synthétique et où la présence est véhiculée de manière beaucoup plus puissante que le son. Et il n'y a rien que je déteste autant que de voir des danseurs qui dansent comme dans un aquarium et où ils tombent, où ils font des bruits, des pas, des sons, et où il n'y a pas de son. Parce que ça, c'est vraiment la négation, d'une certaine manière. C'est vraiment l'image de papier glacé et vraiment la négation de tout ce que j'essaie d'attraper. Mais ici, donc, il y a eu des prises de son, puisque les danseurs ne dansent pas sur la musique. On a tourné en silence la plupart du temps, donc avec un preneur de son qui capte, avec des micro-contacts en dessous des tables, etc. Il faut bien dire, très souvent, ce son est inutilisable parce qu'il y a des mouvements d'appareil. Donc, oui, une grue qu'on déplace avec 3 personnes qui la poussent, ça fait du bruit. Et puis souvent aussi parce qu'il y avait des indications, soit mes indications, soit celles de Bill Forsyth qui venait dans le tournage. Donc très souvent, on a dû refaire. Donc, il y a un travail de bruitage. Qui s'opère après, et de resonorisation. Si on peut mettre la forme d'onde, on va voir tout de suite aussi, parce que c'est comique. Où c'est ? Où est-ce qu'on l'avait mise finalement ? Je ne sais plus. Il n'est plus. Bon, ben, on est trouvé. Quand on voit la forme d'onde, on voit très bien que les zones de repos, disons, de baisse de la tension sont très clairement exprimées dans le son. Alors que en spectacle, c'est une musique qui n'arrête pas de monter. Hein. C'est
vraiment... Oui, mais nous, on ignore totalement la musique, en fait. Que sous scène, ouais.
Thierry ?
Oui.
On a l'impression, donc, que dans l'écriture de Forsythe, justement le top shot, l'écriture du vue de haut, si on peut dire, est importante. On l'a vu aussi dans ce qu'il a fait au Louvre avec les tracés du tableau de Bacon. Est-ce que c'est quelque chose qui lui est spécifique ? Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves chez d'autres chorégraphes, cette façon d'écrire un peu vue de haut ?
En fait, Bill était, je crois qu'il était très surpris et très intéressé par l'image du top shot, mais au contraire, je crois que c'est quelqu'un qui pense extrêmement frontal.
D'accord.
Dans les chorégraphes à qui j'ai travaillé, c'est vraiment quelqu'un qui pense son tableau et visiblement qui travaille, je n'étais pas là aux répétitions, mais qui travaille extrêmement frontal. D'où parfois les angoisses quand il voyait la caméra qui partait en latéral. Et puis, parfois, il découvrait lui-même des aspects. Il est très, quelqu'un d'extrêmement vif et intéressé, donc toujours intéressé à découvrir des aspects auxquels il n'aurait pas pensé, ou des trucs qui se passent en dessous des tables. Parce que comme il voit ses spectacles de centaines de fois, mais il les voit toujours dans une position dominante. Mais il y a des spectateurs qui sont trop au parterre, qui voient un tout autre spectacle que lui, et qui est tout à fait intéressant aussi. Donc je crois que Bill est quelqu'un de très frontal. Ceci dit, à mon avis, une pensée d'une telle complexité dans un labyrinthe urbain aussi quadrillé ne peut pas se concevoir sans au moins avoir une pensée topologique. À mon avis, c'est plus une pensée topologique. Et justement, des stratégies scéniques qui sont du tout grand art pour attirer votre attention sur un type qui reste avec sa tête, là, comme ça, dans le fond. Et alors qu'il y a 15 danseurs qui bougent, mais on ne voit que 5 derrière qui est là avec sa tête et qui attend son moment. Et en fait, quand il est là, il prépare déjà le fait que c'est 5 qui va déclencher l'incendie final en entrechoquant les tables. Il gère ça de manière absolument magistrale, mais il gère ça de manière très très frontale. Je dirais par exemple, quelqu'un comme Thérèse de Kersmacher pense beaucoup plus ses chorégraphies avec des floor patterns. Je ne crois pas que Bill... ce qu'on appelle les floor patterns, c'est des trajets, des trajectoires, des trajets obligés, disons de certaine manière, que les danseurs suivent, et donc où on écrit les mouvements, on force les mouvements suivant certaines lignes, certaines trajectoires. Je ne crois pas que ça fait partie du travail habituel.
Non, c'est plutôt un fleuve de certaines qualités que ce qu'il appelle flow matching. Je ne sais pas comment traduire en fait, mais c'est plutôt
flow matching.
C'est plutôt les énergies qui réunissent dans un moment ou qui synchronisent dans le même moment. Et ça peut être circulaire ou ça peut être linéaire, mais c'est plutôt...
Il parle énormément d'alignement. Il veut des alignements, qui soient des alignements soit dynamiques, soit statiques, soit rigides, soit souples, mais il pense très, très fort en alignement. Et il pense très fort aussi, il dit souvent, un mot que j'entends très souvent dire dans sa bouche, c'est to read, you read this movement. Et donc, tu lis ce mouvement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis finalement, comme Poul l'a expliqué, ça veut dire que... Un danseur initie quelque chose et l'autre lit ou décode ce mouvement et va parfois le mettre dans une partie du corps ou va le mettre couché avec ce mouvement de pied qui revient.
Dans une autre orientation.
Dans une autre orientation, dans une autre... où il va décoder l'espace comme l'empreinte du mouvement. Hein, donc c'est aussi toute cette technologie de faire voir l'espace négatif qu'il y a autour du mouvement. C'est vraiment des figures rhétoriques qui reviennent à peu près tout le temps, dans toutes sortes de déclinaisons d'ailleurs, parce que sous l'évolution du langage de Bill, qui est quand même dérivé de lui-même, du classicisme, du néoclassicisme, et qui est très orienté, c'est un langage classique qui a été manipulée, remanipulée,
ouais, remanipulée. C'est un langage assez articulé, même si c'est parti loin de la classique, c'est très articulé.
C'est extrêmement classique. Mmh. Dans notre interview, il commence par le dire, c'est de la danse classique, d'une certaine manière. Mmh. Il s'est dit l'héritier, oui, c'est maître, c'est Balanchine. Donc, il revient dans son, comme modèle. Donc, mais c'est comme un Balanchine, mais qui est passé à travers 10 000 anamorphoses. Mmh. Mais le substrat est toujours quelque part perceptible derrière toutes ces grilles qui ont été qui ont modifié le mouvement de départ. Peut-être ces derniers temps ça évolue d'une autre manière, mais par des opérations de, je ne sais pas si vous avez vu Atmospheric Studies, vous avez vu ça ici à Paris.
Ouais.
C'est très c'est peut-être là, il y a quand même une espèce de grande différence. C'est quelque chose de différent qui se passe. Mais où de toute façon, tout ce substrat reste extrêmement puissant et extrêmement efficace.
Thierry, moi j'avais une question parce que c'est effectivement tellement complexe ce que tu racontes. Et quand on imagine, enfin, quand on voit tout ce que tu as pu filmer, on comprend que tu aies pu t'affronter à Forsyth. Et peu de gens ont filmé Forsyth, hein. Il y a très peu de films. Et je me demandais comment s'était fait la rencontre. Parce que quand on voit musique de table, même quand tu parles et que tu tapes sur la table, enfin bon, et les tables, on se dit que tout amenait à pouvoir filmer Forsyth. Mais comment ça s'est fait? Qui lui a dit? Comment vous êtes rencontrés?
Je crois que c'est Héroïque qui a provoqué la rencontre. Et donc j'ai eu un coup de téléphone de Bill qui avait vu mes films que lui avait passé Héroïque. Et donc qui était très enthousiaste à l'idée de travailler. Et puis j'ai rencontré Bill. Moi je m'attendais à ce qu'il m'explique sa chorégraphie. Et on a mis l'inverse d'une vidéo du spectacle. Et j'étais très étonné, c'est qu'il a fait toute la bande son du spectacle. Il faisait... Mais dans le contre-thème, c'est... Il rechantait comme ça tout le contre-thème. Puis je dis, bon, oui, d'accord. Oui, regarde, là, c'est le contre-thème qui est repris. Là. Il était vraiment tout à fait pris dans son truc. Et visiblement... visiblement, je me suis dit, oui, là, il y a certainement moyen de s'entendre. Et, ouais. C'est très clairement l'aspect rythmique de cette danse qui crève les yeux, évidemment. Et à mon avis, très, très, très important pour
lui. Oui, particulièrement avec cette pièce. Ouais.
Particulièrement avec cette pièce-là. Ouais. Mais même, enfin, dans beaucoup de pièces, il y a vraiment... quand il voit les danseurs, il fait... Quand derrière la visée vidéo, là, il était tout le temps aussi en train de rechanter les rythmes ou de se remettre dans le rythme des danseurs.
Je me suis amusé avec Ligne de Temps à repérer le ray de lumière que tu as là sur cette photo. Et elle n'est jamais centrée. Il y a toujours une asymétrie.
C'était un petit peu voulu, évidemment. Hein. Mais on avait calculé pour que le ray te tourner à l'heure... où le ray de lumière... Donc le deuxième couloir en partant de la droite, c'est par là que s'opèrent toutes les entrées. Donc ici, hein, c'est le couloir d'entrée dans le labyrinthe. Ça. Et donc j'avais repéré le moment où ce ray de lumière toucherait ce couloir, et on l'a un tout petit peu anticipé pour que, évidemment, ce soit le haut du corps des danseurs qui soit éclairé à ce moment-là. Parce que si j'avais attendu qu'ils tombent pile poil dans le couloir, mais ils auraient eu le haut du corps dans l'ombre. Donc il est un petit peu décalé, mais j'aime bien.
Il y a un balancier un peu comme un cadran solaire, hein. Laissez jamais au milieu.
Mais je ne les ai pas ici. Des improvisations thématiques, là où il y a toute la rangée de tables. On a tourné un moment du jour où sans doute le soleil... oui, parce que quand le soleil décline, ça va plus vite, évidemment, l'évolution. Et là, on voit vraiment la tache de lumière qui se déplace comme ça, de plan à plan. La lumière, c'est un paramètre auquel je deviens de plus en plus sensible, en fait, parce que c'est vraiment tout ce qui est des plans qui sont fantastiquement dansés, fantastiquement cadrés. Et puis, ils sont décevants, ils n'ont pas de magie, ils sont plats, ils n'ont pas de rythme, ils n'ont pas de relief. Pourquoi ? Parce que la lumière n'y est pas. Et donc, au fur et à mesure que j'avance là-dedans, au fur et à mesure, je deviens de plus en plus sensible à ce paramètre de la lumière. Enfin, de la lumière dans l'image. C'est aussi la lumière qui peut, par exemple, donner un effet de fin. Donc ici, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais il y a comme une évolution dans le spectre lumineux de privilégier des lumières du matin au début du film et au fur et à mesure d'arriver à des lumières plus orangées. Ça peut se reproduire en laboratoire, mais c'est jamais évidemment la même chose que si on a réussi à capter la vraie lumière de fin de journée. Je ne sais pas si on peut le voir là. Et donc ce lieu qui permettait de jouer avec cette lumière du jour, comme si c'était des spots, évidemment, c'est très intéressant. On voit très clairement, c'est une lumière qui est presque horizontale à travers cette baie vitrée là, du fond. Évidemment, il y a toujours toutes sortes de contraintes qui se croisent, hein, et donc on doit là, par exemple. Je crois que la lumière, c'est un des éléments qui permet de donner un sentiment qu'on arrive à une conclusion. Oh, le plan avant, les attentes, là, ça c'est encore plus clair. Oh, c'est... Voilà, ça c'est évidemment le... type même de lumière de fin de journée. Ça, c'est le trio que Forsyth estimait trop bien huilé. Et donc, il a demandé à Roberta, qui était une nouvelle venue de la compagnie, je crois. Non,
oui, qui était une extra.
Qui était une extra, de faire une voix supplémentaire. Donc, de venir créer un niveau de tension. Donc, elle doit lire ou prendre tout ce qu'elle peut des mouvements... de Dena, je crois, ou de 5. Voilà, il est... Encore des questions ? Oui, bien sûr. Donc, il y a de la lumière artificielle, mais qui ici joue un rôle secondaire. Donc, pour se battre contre le soleil à travers des baies vitrées, il faudrait évidemment avoir une rangée équivalente de tours avec des sources lumineuses extrêmement puissantes, ce qui n'était pas dans le budget. Donc on se sert comme lumière principale les lumières naturelles et comme lumière, disons, de décrochage pour éviter... Par exemple, sur cette image, pour éviter que cette partie-ci soit tout à fait dans l'ombre, il y a des arcs qui tapent dans des voiles. En fait, on a tendu des voiles de drap blanc et on projette des grosses sources, quand même des 12 kilos, 12 kilowatts, s'il y a des techniciens cinéma, dans ces sources, ce qui permet de compenser la lumière qui tombe des fenêtres. Évidemment, les jours où il faisait gris, le processus se renverse, c'est-à-dire que la lumière artificielle devient la source dominante et la lumière du jour devient la lumière qui compense. Donc ça veut dire qu'on renverse l'éclairage, etc., etc. D'où l'importance de, si vous voyez des directeurs photos qui se brûlent les yeux à regarder avec une petite l'évolution des nuages, c'est évidemment crucial parce que si ce phénomène se produit, tout le rythme du tournage peut basculer. C'est-à-dire que votre axe principal de lumière devient l'axe secondaire, c'est-à-dire que là où le directeur photo a construit tout son éclairage en opposition pour avoir des contres, par exemple, et puis ces contres deviennent, ses contres s'affaiblissent, et son éclairage de rattrapage devient sa source dominante, donc il aplatit tout, donc c'est vraiment comme s'il y avait un flash tout mou qui vient pouf, comme ça, et toute l'image tombe. Ça, c'est la terreur des directeurs photo. Donc, s'il y a des gens d'image dans la salle, ils savent très bien de quoi je parle. Donc, gérer tous ces trucs à travers le plan de travail du film, c'est un plan à choix multiples. Donc, c'est évidemment, maintenant, on peut faire des prévisions météo un peu plus un peu plus précise. Mais on se dit, bon, voilà, si mercredi, il y a une journée de soleil, qu'on nous annonce que le jeudi va faire moche, ben on va faire ces plans-là comme ça. Et par contre, ce plan-là, qui n'est pas ce gros plan, où on peut... ça, on le fera à un moment où le temps sera maussade, etc. Ça rentre en ligne de compte. Oui, oui. Oui, je peux dire, oui. Oui, oui. Oui, oui, c'était solide. Je crois que quand même compter un mois, mais c'est pas des durées continues, mais je peux quand même dire l'écriture, le moment du découpage du storyboard, c'est quand même à peu près un mois, deux mois de travail, vraiment, pour décoder toutes ces trucs et arriver au moment du tournage à faire. Quand vous êtes sur le tournage, vous êtes une machine à faire des choix. Comme ça, il faut faire 10 choix à la minute sur les costumes, sur la lumière, sur qu'est-ce que tu veux faire après, où tu mets la caméra, jamais quel focal. Enfin, c'est vraiment. Le réalisateur est bombardé de choix. Et donc, avoir des espèces de. Ce que j'appelle les fameuses stratégies, ou d'avoir des arches qui éliminent déjà toutes sortes de choix, qui font tous des choix à l'avance, et qui. On peut espérer qu'à la sortie, ben oui, qu'il y a une empreinte, qu'il y a une signature qui va sortir de tous ces. De tous ces petits micro-choix qui se sont opérés. Et on est de toute façon tellement surpris. Je veux dire, on pourra encore travailler un film pendant des années. Quand on va arriver à la réalité du tournage, on va quand même de toute façon être bouleversé. Oui, c'est qui a dit « La vie, c'est la rencontre d'un programme et d'un possible ». C'est un atlant. Mais c'est ça. Mais voilà, il faut que le programme soit solide pour que le possible soit fort aussi.